Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Marianne Soubré, avocate, Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie et Stéphane Manigold, chef d'entreprise, restaurateur. Vous avez un rendez-vous la semaine prochaine avec les Grandes Gueules, bien sûr, mais un rendez-vous plus particulier parce que la semaine prochaine, ce sera... Ah, on vous fait un cadeau, là, un cadeau dans ce mois de juin. L'opération Tous GG dans les Grandes Gueules.
Oui, ce sont les stars des RMC qui vont venir dans les Grandes Gueules. Lundi, Apolline de Malherbe. Mardi, Vincent Moscato. Mercredi, Jérôme Roten. Estelle Denis, jeudi. Et Daniel Riolo, vendredi. Ça veut dire quoi, être dans les Grandes Gueules? Ça veut dire que Apolline, Vincent, Jérôme, Estelle, Daniel seront avec vous, mes chers GG. Vont participer au GG 7 et match. D'ailleurs, je sais que la pression monte hein, chez nos petits camarades, parce que là ils ont le week-end là, pour réfléchir, pour voir comment ça va se passer, et donc on va passer une super semaine avec tous nos amis.
Apolline va commencer lundi avec Charles Consigny, Joël Dagosseri et Bruno.
Il y aura des rencontres improbables hein.
Alors la rencontre, ce qu'on attend le plus, Vincent Moscato, Sarah Salman,
ouais, c'est pas mal.
Je dois avouer que là ça risque d'être assez amusant.
En même temps aussi
Riolo Moutboudjelal, ça promet aussi.
Oui, Riolo, Barbara Lefebvre et Estelle Denis, Kevin Bossuet hein, Kevin, tu auras Estelle je
avec plaisir.
Donc la semaine prochaine, tous GG dans les Grandes Gueules, à ne pas rater.
Ah oui, attends, pardon aussi, j'avais oublié la Marseillaise Kaouter Ben Mohamed avec le Parisien Jérôme Roten.
Ah voilà. Oula. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Roten,
oui,
bien sûr.
Êtes, et de l'AS Monaco. Vous êtes joueur.
Rendez-vous dès lundi avec Apolline de Malherbe, tous GG la semaine prochaine, on y reviendra bien sûr. Notre nouveau sujet de discussion, ça va être tout ce bruit que l'on fait autour du port de la Baïa à l'école.
RMC, les Grandes Gueules.
Alors, on nous parle de 1000 cas d'atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires. Pape Ndiaye a réuni les recteurs pour leur dire, voilà, où en est-on? Quelles sont les remontées de terrain? Comment vous pouvez agir? Parce qu'il y a déjà une circulaire qui est en place. Alors, est-ce qu'on est face, franchement, à un emballement? Au contraire, un vrai problème aujourd'hui dans les établissements ou simplement un petit effet de mode? On va en parler avec vous au 32-16, vous venez nous dire ce que vous en pensez, mais on va écouter le témoignage de ces deux jeunes filles, deux adolescentes rencontrées du côté de Lyon.
C'est joli, c'est beau, ça fait princesse, voilà, tout le monde aime quoi. La rébaïa, non, c'est pas religieux. On nous demande d'enlever notre voile à l'entrée du lycée. Ok, je peux comprendre parce que c'est religieux et tout, on n'est pas en train de faire de la propagande, fait de mal à personne.
Bah, moi je trouve que c'est une attaque envers ma religion. Enfin, c'est injuste qu'on dise à quelqu'un qui vient en longue robe qu'on lui dise rien. Et moi, comme je suis arabe, on me dit oui, c'est un habit religieux.
Pourquoi tu m'as...
Alors, voilà. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, parce qu'il y a tout un débat, est-ce que la baïa s'est assimilée à une tenue de la religion musulmane? Cette jeune fille vient de répondre, oui, pour les jeunes femmes qui portent cette robe longue et ample, c'est assimilé à une tenue de la religion musulmane, et c'est totalement importé des pays du Golfe, c'est une mode, entre guillemets, qui est venue des pays du Golfe. Les abayas se multiplient, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, hein. Et encore, les chiffres sont sans doute minorés, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui ne font pas remonter les informations. En dépit de la loi sur la laïcité à l'école qui, rappelons-le, interdit tout signe religieux distinctif. Alors, en plus, au sujet des abayas, une circulaire de septembre 2022. Alors, certains disent qu'elle n'est pas assez précise, qu'il faudrait peut-être la repréciser, dire très clairement, les abayas, c'est non à l'école. Parce que c'est pas dit précisément comme ça. Et c'est vrai que les chefs d'établissement, parfois, sont un peu seuls à l'entrée de leur collège, leur lycée, face à cette jeune fille qui arrive. Il faut discuter. Parfois, il peut y avoir aussi la pression des parents. Parfois aussi, il y a de la provocation. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille qui arrive, on lui dit non. Et puis, le lendemain, c'est 10 jeunes filles qui arrivent. Bah, on est chez des collégiens, des lycéennes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être intransigeant? Est-ce qu'il faut une nouvelle circulaire? Ou est-ce qu'il ne faut pas trop réagir à ce phénomène?
Qu'en dites-vous, Stéphane?
Non, mais rappelons, tu l'as dit, hein, c'est quand même une tenue religieuse traditionnelle d'origine musulmane du Moyen-Orient, principalement d'Arabie Saoudite, du Maghreb. Donc, en France, il y a un principe, c'est la laïcité. Nous avons inscrit que tout signe ostentatoire religieux est interdit à l'école. En l'espèce, il s'agit bien d'un signe ostentatoire religieux. Je crois qu'il n'y a pas de débat réel sur son origine, c'est ça. Donc c'est après, que tu modifies la loi pour dire au fond un signe ostentatoire religieux, qu'il soit historique ou contemporain, il reste un signe ostentatoire. Parce que là, on voit bien les tensions que cela provoque. Et puis après, si tu veux éliminer clairement le sujet à l'école, moi, je défends ce sujet depuis 2010. Tu mets en place l'uniforme scolaire.
Ou la même tenue.
Mais parce qu'on peut aller au-delà de la religion. Un signe ostentatoire, c'est aussi un signe ostentatoire de richesse extérieure. Donc,
comme dans les pays anglo-saxons.
Mais bien sûr, tu mets l'uniforme scolaire. Tu élimines, au fond, cette discrimination. Tu élimines cette discrimination sociale, religieuse, ethnique, ce que tu veux. Tout le monde, tu viens, tu te concentres sur une seule chose, l'enseignement, t'écoutes ton prof et tu regardes pas les pompes de ton voisin.
Oui, alors, je suis d'accord sur l'uniforme, simplement, on ne peut pas dire que l'abaya est un vêtement religieux. Il est bien là le problème. Est-ce que c'est un vêtement religieux ou est-ce que c'est un vêtement culturel? Et c'est le problème que l'on rencontre, puisqu'il y a une circulaire qui est sortie il y a quelques mois, qui dit que ce sont les enseignants et ce sont les chefs d'établissement qui doivent deviner l'intention qu'il y a derrière le port de l'abaya. Donc forcément, c'est très compliqué avec un phénomène de peur qui est souvent très prégnant. Souvenons-nous de cette enseignante à Montauban qui était jetée en pâture sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'elle avait fait une réflexion à l'encontre d'une élève qui portait l'abaya. Après, de manière plus générale.
Est-ce que les professeurs ont peur? Oui. Après Samuel Paty, est-ce qu'il n'y a pas aussi une
Il y a trois types de professeurs. Il y a des professeurs qui ont peur. Il y a des enquêtes qui sont sorties qui montrent que un enseignant sur deux s'auto-censure. Il y a des professeurs qui sont de vrais républicains et qui essayent vraiment de transmettre la laïcité. Et tu as également des professeurs qui sont dans l'idéologie islamo-gauchiste. Il y a une enquête de l'IFOP qui est sortie il y a quelques mois qui a montré que 20% des enseignants étaient pour le port des vêtements à caractère culturel, voire religieux, dans nos salles de classe. Donc là, ça pose un véritable problème. La question, c'est de comment on lutte contre l'abaya. Parce qu'en effet, on ne doit pas avoir d'abaya dans les établissements scolaires. C'est qu'il ne faut pas rentrer non plus dans une police du vêtement. Voilà. Parce que ce qu'on est en train de voir dans certains établissements, c'est d'autres formes de vêtements qui peuvent prendre un caractère religieux. Par exemple, dans certains établissements, les filles portent désormais des gants. Donc, est-ce qu'il va falloir faire une circulaire pour interdire ces gants? Non, la solution, elle est toute trouvée. C'est ce qu'a dit Stéphane, c'est ce qu'avait proposé à l'époque Jean-Michel Blanquer, c'est le port de l'uniforme à l'école. On entre dans un établissement scolaire avec un uniforme. Comme ça, ça permet de lutter contre l'islamisme, ça permet de lutter contre le harcèlement scolaire.
Et on passe à autre
chose. Et dernière chose que j'aimerais dire, on tape beaucoup quand même sur Pape Ndiaye. On tape beaucoup sur le ministère de l'Éducation nationale. Sauf que là, l'offensive, elle vient d'où? Elle vient du ministère de l'Éducation nationale qui est intransigeant sur la question de la laïcité.
Il faut reconnaître.
Il veut garder son portefeuille ministériel.
Non, mais c'est vrai que, simplement, d'habitude, le ministère préfère taire les problèmes. Là, c'est lui qui fait remonter les chiffres.
On les met en avant. Donc, c'est quelque chose, quand même, qu'il faut souligner. Et les recteurs rappellent au début de chaque rentrée qu'il faut être très vigilant sur la question de la laïcité. Donc, attention aux faux procès. L'éducation nationale n'est pas parfaite, mais il ne faudrait pas non plus lui faire de faux procès.
Moi, je suis très, très embêtée parce que je suis à la fois extrêmement laïque et extrêmement pour l'interdiction de tout signe ostentatoire religieux. Et en même temps, je suis juriste. Et le problème, c'est que l'abaya, il faut qu'on nous prouve et qu'on nous démontre que c'est un vêtement religieux. Et c'est à aujourd'hui, ça n'est pas démontré. Alors, ce qu'on peut dire, par contre, ce qu'on peut dire quand on voit les images, c'est que toutes les jeunes filles qui rentrent dans leurs établissements scolaires avec une abaya ont aussi un voile et elles l'enlèvent parce qu'elles respectent la loi et elles l'enlèvent. Donc on peut dire que voile plus abaya, ça serait une tenue religieuse. Mais moi,
t'avais beaucoup vu de juifs et de catholiques porter des abayas.
Le problème il est pas là. Le problème est juridique. Non mais moi je te parle en tant que juriste, oui, parce que derrière t'as le Conseil d'État.
Je te pose une question.
Ben non, mais justement, mais derrière, tu as le Conseil d'État qui va nous dire, et moi, je suis absolument d'accord, Kevin a absolument raison, on a un problème de police de la mode, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Et donc, il nous faudrait des religieux musulmans, Tarek Obrou, par exemple, s'est déjà positionné, bon, ben pour voilà. nous dire que c'est un vêtement religieux, et à partir du moment où on nous dit ça, impeccable, on peut,
non, mais c'est pas aussi
impeccable, on peut interdire.
On ne découvre pas que l'abaya, c'est un vêtement traditionnel musulman, qui vient
mais là, on est dans le
Moyen-Orient.
C'est instrumentalisé par des salafistes, par exemple.
Non, mais bien sûr. Mais c'est pas le
vêtement religieux là-bas.
Le problème, c'est que je suis archi contre l'abaya, mais je suis aussi archi juriste. Oui. Et je respecte la loi.
Oui, enfin,
et aujourd'hui,
Marianne Soubré, on a exactement le même débat qu'avec le voile. Certains nous expliquaient.
Non,
je vais finir mon propos. Certains nous expliquaient à l'époque.
C'est pas donc, à moi de faire ça.
Certains nous expliquaient à l'époque. Oui, mais attention, le voile, ça peut être aussi culturel. Non. Dans les pays du Maghreb, les femmes portent le voile, etc. Et on nous expliquait si on interdit le voile, vous comprenez, on discrimine ces jeunes filles. D'ailleurs, ces jeunes filles vont se déscolariser.
Olivier, on n'était pas nombreuses.
Aucune jeune fille s'est déscolarisée, et deux, maintenant, ça ne pose plus de problème.
On n'était pas nombreuses dans la rue. Non, mais
personne
viendrait
l'idée de revenir sur cette loi.
Je peux te donner les noms des 50 personnes qui étaient avec moi quand on a défilé, nous, mais pour l'interdiction de la burqa. Donc, non, mais si tu veux, moi, on n'a pas...
Je parle pas du voile, je parle pas du voile à l'école.
Voile ou burqa, c'est pareil pour moi.
Non, je parle du voile à l'école.
Oh, mais arrêtez un peu, laissez-moi terminer. Bah, j'essaye de nuancer parce que le problème, c'est qu'on est dans un truc de nuance et qu'il y a le Conseil d'État derrière nous et que de toute façon, on peut faire des grands moulins avec les bras. Pour autant, le Conseil d'État nous dira si on a le droit ou pas. Et ce qui peut protéger les professeurs et éviter qu'il y ait des drames comme avec Samuel Paty, c'est justement que la loi soit très claire, que les circulaires soient très claires et que le Conseil d'État soit
très clair. Tu peux très bien dire dans la circulaire, les abayas sont interdits.
Peut-être que le Conseil d'État dira, ben non, l'abaya,
c'est un problème de
mariage. J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse.
De son rôle,
Stéphane, on peut tous considérer que nous sommes dans une zone grise de la société aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est vrai.
Il
y a un défi aujourd'hui réel de la mixité et
moi, je suis pour l'uniforme aussi. Hein.
S'il te plaît, tu me coupes. Et l'apologie, en fait, du repli communautaire. Le repli communautaire est un fléau pour la société, notamment française. Mais dans le monde entier, on le voit. Le repli communautaire tue la vie en société, tue la République, tue la démocratie. Donc oui, ces débats, il faut les clarifier, mais il faut les clarifier avec une main ferme. Il ne faut pas que la République revienne sur ces sujets. La République doit écraser.
Mais
je te concède que nous sommes dans une zone grise. Donc on dit la même chose.
Je
ne dis pas que tu es. Je n'ai pas dit que toi, tu es dans l'autre caricature. Attention.
Marianne dit derrière le Conseil d'État peut passer et casser ça.
Voilà. Attention.
Et qui change la loi.
Mais d'un autre côté.
Si c'est le Conseil d'État qui doit nous dire comment on a envie de vivre, c'est un problème.
Non, c'est pas comment on a envie de vivre. Si tu pars du principe.
La laïcité, c'est quelque chose de très spécifique.
La laïcité.
La plupart des pays n'ont pas la laïcité. Et donc, c'est vrai, c'est une spécificité française, la laïcité.
Mais il faut être sûr que c'est un symbole religieux et que c'est un signe religieux.
Des pays musulmans.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand même, on peut tempérer aussi. Si par exemple, on avait des gamines qui, du jour au lendemain, arrivaient en chemise de nuit ou d'autres gamins qui arrivaient en pyjama, on pourrait peut-être leur dire.
Voilà.
On pourrait peut-être leur dire et les ramener au règlement intérieur. Donc, on est dans un truc.
Donc, tu mets l'uniforme scolaire.
On est gêné. Mais oui, mais moi, je suis d'accord.
Alors, attendez, Kevin. Non, mais on a la chance d'avoir un enseignant.
Juste une chose. Je pense que vous allez sur le terrain religieux. En fait, on n'est pas sur le terrain religieux. On est sur le terrain identitaire. Qu'est-ce que c'est que l'abaya? C'est une affirmation identitaire. C'est la manifestation d'un repli communautaire instrumentalisé par les islamistes, puisque les salafistes, en effet, veulent de plus en plus voir des abayas. Pourquoi ? Pour tout simplement faire en sorte que l'islam politique soit de plus en plus visible. C'est ça la portée. Et de l'autre côté, vous avez des jeunes qui sont dans un malaise identitaire et qui vont utiliser le prétexte religieux pour s'affirmer, pour dire « moi, je suis contre l'Occident, moi, je suis contre la liberté des femmes, moi, je suis contre tout ça ». Et au milieu, vous avez des personnels de l'éducation nationale qui font ce qu'ils peuvent. Donc c'est bien beau d'avoir un discours de fermeté, je suis le premier à en avoir, mais il faut avoir un discours pratique. Comment on fait sur le terrain quand on a une élève qui porte l'abaya. Parce que le plus, il faut discuter, il faut appeler les parents.
Et la discussion s'engage correctement.
Parfois, ça porte ses fruits, parfois, ça ne porte pas ses fruits.
Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle répond dans cette
situation? Elle me dit, mais non, c'est pas religieux, mais non, mais vous comprenez pas, on a le droit de s'habiller comme on veut. Ouais, est-ce qu'on reproche à telle ou telle personne de s'habiller comme ça? On rentre dans des débats interminables. Qu'on a un, deux ou trois cas, ça va. Qu'on en a 15 ou 20, ça devient tout de suite ingérable. C'est pour ça qu'il faut protéger les personnels de l'éducation. Sauf que si on commence à dire une circulaire interdiction de l'abaya, de toute manière, cette affirmation identitaire va prendre d'autres formes à travers d'autres événements.
C'est l'argument qu'on a tenu pour le voile. Et finalement, on a réussi à interdire le voile à l'école. Je comprends pas. Vraiment, sincèrement, j'ai l'impression d'entendre ce qu'on entendait il y a 20 ans. On entendait exactement les mêmes arguments. Oui, mais vous comprenez, ça va braquer. Oui, mais vous comprenez le chef de la République. Moi, on a interdit le voile et basta. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'était intéressant dans le reportage qui a été diffusé sur BFM TV. On voit les jeunes filles qui veulent garder leur abaya, mais qui enlèvent leur voile parce qu'elles savent que c'est interdit. Mais, eh bien, quand ces jeunes filles sauront que c'est interdit, elles respecteront la loi.
Olivier, je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas de problème.
Mais tu sais bien qu'on est dans.
C'est les adultes qui ont peur dans cette histoire.
Non, mais je suis d'accord, mais tu sais bien qu'on est dans une société où le Conseil d'État va intervenir, où la Cour des droits de l'homme va intervenir. Le tout, c'est de sécuriser juridiquement la réponse qu'on doit apporter. Donc, moi, expérience de terrain.
Il y a toujours de bonnes raisons d'avoir peur.
Mais on n'a pas peur.
C'est justement pour être efficace.
Voilà. Eh bien, une circulaire. Tu fais une circulaire. Mais tu dis les abayas, ça
ne va pas respecter. On ne dira rien.
Dans un instant, Christophe avec nous du côté de Toulouse. Justement, Christophe, il est enseignant et il me dit qu'il y en a de plus en plus dans les écoles. Voilà. Comment est-ce qu'il y est confronté? Ce qu'il fait, peut-être comme Kevin, en engageant le dialogue. Le témoignage de Christophe, enseignant, dans un instant.
Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC,
9h midi,
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. RMC, c'est la radio, RMC Story, c'est la télé sur Canal 23 de la TNT. On discute de ce phénomène ou pas des abayas à l'école. En tout cas, il y a une alerte à l'éducation nationale, des recteurs qui sont invités à s'expliquer avec le ministre pour mesurer l'ampleur de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il faut une nouvelle circulaire ou pas? Christophe nous appelle au 3216. Il est enseignant justement à Toulouse. Bonjour Christophe.
Bonjour
Christophe. Enseignant en collège, en lycée?
En lycée.
Alors, est-ce qu'il y a un vrai phénomène ou pas alors, Christophe?
Ah oui, c'est un vrai problème. Et puis, c'est pas une zone grise, hein. C'est une zone de peur. On va pas se mentir.
Oui.
On est dans une zone de peur. Nous, on sait qu'on sera pas suivi par l'administration. Voilà. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Samuel Paty. On sera pas suivi par les collègues. Il y aura toujours un qui dira blablabla, blablabla. Pour autant, la loi, elle est claire. Hein. Si, quand je vois quelqu'un, je sais quelle religion il a, c'est ostensible. C'est ostentatoire, ça ne devrait pas être là. Ah oui. Et je ne me pose pas de questions, on me dira ce qu'on veut. Hein. Ah. Quand tu vois une fille en abaya, il y a zéro question à se poser. Zora Habitant le dit aussi. Et oui, il n'y a pas que moi. Donc là-dessus, il y a une zone de peur qui a été générée par cette religion-là. Et on en est là.
Donc vous attendez un soutien ferme, clair de votre administration.
Il faut que la République soit forte. La République qui doit être forte.
Comment
alors,
faites-vous?
Alors moi je fais rien. Moi j'ai un débat à midi avec mes collègues où je dis mais attendez les mecs, vous voyez pas toutes ces abayas, ça vous gêne pas? Ils me disent ouais non mais tu comprends, c'est quoi la différence entre une jupe longue et une abaya? Moi je vois une autre gamine passer à la cantine, je fais ça c'est une jupe longue. J'ai pas de doute. Qu'est-ce qu'elle est, musulmane, juive, athée? J'en sais rien. C'est une jupe longue. Et après un peu plus loin je fais bah ça, voilà, j'ai pas de doute. Je la vois, je sais qu'elle est musulmane.
Et alors, est-ce que vous en discutez avec ces jeunes filles ou pas?
Ah non, il n'y a pas de discussion à avoir. Enfin, moi, c'est pas mes élèves, donc je vais pas aller vers elles. C'est sûr, parce qu'il y a plus de 3000 élèves dans le lycée, donc vous imaginez bien que c'est un peu complexe. Quand c'est un autre adulte qui vient, il y a des gros problèmes dans les lycées. Quand vous faites une remarque, il y a un collègue qui a fait une remarque sur un voile, qui s'est fait conspuer par les garçons qui traînaient à côté. Non, il y a un réel problème. Alors, est-ce qu'on doit venir à l'uniforme, j'en sais rien, pour comme ça, c'est clair, net et précis, mais la République doit être forte. Mais
alors, là, on est faible. Christophe, restez avec nous, parce que je voudrais que, justement, on discute avec Myriam, qui est là. Myriam, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous écoutiez les GG, Myriam. Quelle est votre opinion sur cette question, alors, Myriam?
Alors, en fait, comme j'expliquais au standard, c'est ni religieux, ni même culturel, parce que moi, je suis d'origine algérienne, je suis musulmane. Comme j'expliquais, il y a autant de tenues qu'il va y avoir de musulmans, parce qu'il n'y a pas une tenue imposée spécifique. Il y a juste que chez nous, ce qu'on appelle la pudeur. Mmh. Et en fait, ces tenues-là, c'est ce qu'on appelle... Non, c'est pas religieux. La pudeur,
Voilà, enfin, pudeur, c'est pas que chez vous, c'est chez tout le monde, la pudeur.
Chez tout le monde, voilà, c'est ce que j'expliquais. Et en fait, ces tenues, elles sont ce qu'on appelle chez nous mastour, ce qui veut dire, en gros, pudique. Et en fait, ça va être large pour pas qu'on voit les formes, ou des tissus pas transparents, mais suffisamment léger pour pas avoir trop chaud pour les femmes.
C'est quoi chez vous, Myriam?
Par rapport à un code religieux.
C'est quoi chez vous?
Comme je vous dis, par rapport à l'islam, moi je suis musulmane.
Non, mais vous dites chez nous,
Ça veut dire quoi chez vous?
Ça veut dire quoi chez vous?
Les musulmans.
Donc c'est un caractère, c'est un vêtement à caractère religieux, alors.
Mais la tenue en elle-même,
je te dis non,
la pudeur, si vous voulez, la pudeur, elle va être légiférée dans l'islam, mais il n'y a pas une tenue.
Oui, mais vous pourriez être très pudique avec un pull très large et avec une jupe longue.
Alors, c'est ce que je vous disais. Il y a autant de tenues en vérité que de
oui, mais les abayas, quand on voit une abaya, on pense tout de suite à la religion.
Mais pourquoi la porter à l'école?
En fait, ce que je vous disais...
Mais pourquoi la porter à l'école, Myriam?
Par pudeur.
Voilà, il y a par pudeur. Il y a certaines filles qui vont mettre une tunique suffisamment longue pour couvrir les fesses et des jupes longues, etc. Il y en a, moi, par exemple, je peux mettre des manches courtes parce que moi, ça ne me dérange pas. Il y en a d'autres qui vont vouloir mettre des manches longues, même si c'est l'été. Et il y en a d'autres qui vont mettre ces tenues.
D'accord.
On appelle ça des tenues mastour. Nous, chez nous, on n'appelle pas ça des abayas, vraiment.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle des mastour. Ça veut dire elles vont être longues, elles vont être un peu larges.
Alors, Myriam, restez avec nous. Myriam, parce que Christophe voulait vous poser une question. Allez-y, Christophe, pardon.
Ouais, c'est donc pudique par rapport à une règle religieuse. C'est donc religieux. On peut appeler ça ce qu'on veut. Si on dit que c'est pudique parce que c'est marqué dans le Coran ou n'importe quoi, c'est religieux. Il n'y a pas de négociation à avoir.
Vous voyez, moi, je suis musulmane et pourtant, je ne l'apporte pas. Donc, c'est pas une.
Oui, j'entends bien. Mais
oui, majoritairement, les musulmans ne l'apportent pas. Enfin, les musulmans ne l'apportent pas, la baïa, malheureusement.
Mais c'est pas. C'est pas imposé et c'est en fait.
Non mais oui, mais c'est pas la question. Pardon. Attendez, la question n'est pas savoir si c'est imposé, si ces filles sont manipulées, instrumentalisées. Moi, je pense que beaucoup de ces filles le portent. D'ailleurs, parfois même en réaction à leur mère. Je suis sûr que les mères portent pas d'abaya. C'est aussi, on est chez les ados. Mais c'est, en fait, la question n'est pas là. C'est-à-dire qu'on veut pas interdire l'abaya parce que on veut simplement interdire un costume à caractère religieux
puisque
les signes ostentatoires sont interdits à l'école.
Bien sûr,
c'est la loi.
Mais
j'entendais tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle, le professeur d'histoire géographie,
Kevin,
qui disait c'est contre c'est contre la société, c'est contre le féminisme.
Non, je maintiens.
En fait, c'est pas autant politisé que ça. C'est simplement les jeunes filles qui vont se sentir à l'aise.
Alors, je vais vous répondre, madame.
Allez-y.
Non, mais je vais vous répondre. Quand vous avez des élèves qui portent l'abaya, qui vont devant des établissements scolaires, se filmer, provoquer, revendiquer qu'ils sont dans la transgression. Si ce n'est pas quelque chose qui est pensé, qu'est-ce que c'est, madame? La vérité, c'est que certains utilisent cet habit pour faire de l'entrisme, pour essayer d'arborer les symboles de ce qu'ils considèrent comme étant les symboles de l'islam politique et pour faire régresser la laïcité. Donc c'est quand même ça, c'est une remise en cause de la laïcité et ils jouent beaucoup et ces gens jouent beaucoup sur l'ambiguïté, le religieux, le culturel, je vous prie de m'excuser, je ne savais pas, etc. Et il est là le problème et c'est ce flou juridique qu'il faut absolument résoudre parce que les islamistes s'immiscent dans ce qui est vide.
Et ils ont la France.
Allez-y, Myriam, comme si.
Évidemment.
Énormément.
Mais
la majorité, c'est pas ça. Moi, des jeunes filles, j'en connais plein qui les portent. Il y a même des tenues qui ne sont pas. Qu'ils vendent sur les marchés et qui vont être des robes longues.
Mais pas à l'école, madame.
Myriam, expliquez-moi pourquoi.
Et en fait, il y en a plein qui ne réfléchissent pas aussi loin que ça.
Oui, mais bien sûr.
C'est des ados. Et qui nous font du tort.
Oui, mais Myriam, expliquez-moi pourquoi la génération d'avant portait pas d'abaya. Pourquoi tout d'un coup, est-ce que c'est un phénomène assez nouveau?
C'est
un effet de mode, ça vient des pays du Golfe.
Cette génération, elle revient au puritanisme, aux anciennes valeurs. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui retombent dans la
religion. Mais ce ne sont pas les valeurs de la France et de la République, ça, c'est ça le problème.
Dans notre sphère privée, mais la sphère privée n'a pas à s'exhiber dans la sphère publique.
Alors, attendez, on a encore un témoignage.
On peut porter une abaya chez soi.
Ah oui, porte-la chez toi.
Attendez, c'est Fatima qui est...
Myriam, vous restez avec nous comme Christophe. C'est Fatima qui est là. Bonjour Fatima.
Oui, bonjour monsieur dames, bonjour à tout le monde.
Alors, et vous, quelle est votre opinion, Fatima, quand vous entendez Myriam et Christophe?
Alors, moi, je vais vous dire une chose, il ne faut pas se voiler la face au sens propre, au sens figuré. Nous sommes dans un caractère religieux. Je suis française d'origine algérienne, musulmane, pratiquante. D'accord? Je suis née à Salon de Provence, à les Bouches-du-Rhône, et ce qui se passe actuellement, c'est inadmissible. Devant les lycées, on se croirait plus dans un pays de l'Orient que dans un pays de l'Occident. Il ne faut pas dire que les jeunes filles veulent se cacher parce qu'elles sont pudiques. D'accord? Ce sont des symboles de l'islam. C'est de l'endoctrinement. Et elles sont en train de faire en sorte que toutes les jeunes derrière s'habillent de la même façon.
D'accord? Il y a une pression.
Pardon?
Il y a une pression sur les filles qui ne se s'habillent pas comme ça.
De qui,
écoutez,
de quoi,
monsieur,
alors?
Là, en ce moment, je suis en train de voir tous les endroits où je vais, c'est inadmissible. Toutes ces petites sont voilées intégralement, l'abaya, le foulard, à un moment donné, et je pense là que c'est au gouvernement de poser les choses sur la table,
d'accord.
Et de dire stop. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut de la France. D'accord. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur. J'arrive d'Algérie. Hein, j'étais en Algérie pas plus tard qu'il y a un mois. Les filles là-bas sont toutes habillées de manière européenne. Elles vont dans les universités. Elles étudient. Elles revendiquent une liberté d'expression, de tenue, pas de soumission. Et ici, on est en train de se faire envahir par des modes qatariennes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il faut dire ce qui est, qui suivent ça sous prétexte d'une mode. Comme disait la personne, la personne tout à l'heure, elles se filment, elles pensent que c'est un déguisement. Je veux dire, à un moment donné, il faut penser aux gens qui sont au lycée, qui sont de confession musulmane, mais de confession musulmane dans le cœur, comme c'est mon cas à moi. Qu'est-ce qu'elles font à côté de ces filles, à côté de...
Alors,
filles,
Myriam, qu'est-ce que vous répondez à Fatima, Myriam?
Je trouve qu'elle a pas tort, on dirait que c'est une mode qui en a de plus en plus. Ou alors, peut-être que ces jeunes filles se cherchent à force d'entendre qu'elles ont des origines, qu'on les renvoie à leurs origines.
Non, madame, je vais vous dire une chose.
Il y en a de plus en plus, c'est vrai. Et c'est vrai que nous, les générations d'avant, on n'est pas autant...
Excusez-moi, madame, moi je ne parlerai pas de mode. Je n'aurai pas le mot si léger, d'accord? Pour moi, c'est de la manipulation, c'est de l'endoctrinement. D'accord? À un moment donné, ça se fait petit à petit. Vous savez, on est dans une ville, c'est grand et c'est petit. Tout se sait, tout se voit. Ce travail, on le fait. On le voit se faire petit à petit. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut que les autorités, que ce soit l'éducation, les professeurs, je conçois qu'ils ont une crainte par rapport à ça, quand on voit ce qui est arrivé à Samuel Paty. Que les choses soient claires. Ils sont en premier sur le front. Mais le gouvernement, le Darmanin et tout le monde, c'est à eux, à un moment donné, d'être clair.
Oui, mais vous voyez, le problème, c'est qu'il n'y a pas un consensus politique sur cette question. Quand j'entends Mathilde Panot, Mathilde Panot tweeté en gros et traitant nos confrères du Parisien d'islamophobe.
C'est une honte.
D'ailleurs, quand aujourd'hui on dit de quelqu'un d'islamophobe, on lui met une cible dans le dos. Hein. Je rappelle que Samuel Paty en est mort. Donc quand j'entends la présidente du groupe, la France Insoumise, dire vous faites des abayas islamophobes, quand j'entends hier sur le plateau de BFM TV David Guiraud, le député des Insoumis, nous expliquer c'est un effet de mode, j'en ai jamais vu, etc. Les gens, ils sont soit dans le déni, soit dans le cynisme politique parce que c'est un électorat. Et d'ailleurs, ils se trompent parce que je pense que ces jeunes filles ne voteront pas forcément pour eux. Il n'y a pas de consensus politique. Et c'est parce qu'il n'y a pas de consensus politique que, effectivement, les islamistes s'engouffrent dans la brèche.
Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et ce que font les insoumis est juste insupportable. Ils sont en train d'ériger la laïcité contre les musulmans en nous faisant croire que la laïcité, c'est contre les musulmans. Mais non, la République ne se construira pas contre les musulmans et avec les musulmans. Et moi, je n'aime pas ces gens de gauche qui sont sans cesse en train de ramener les personnes immigrées à leurs origines ethniques. Tous ces gens de gauche qui sont sans cesse en train de ramener les musulmans à la religion. Ce n'est pas ça la République. Quand on est au sein de l'école, on est tous à égalité et on prend l'émancipation sociale et intellectuelle.
C'est pas toute la gauche. Par exemple, le maire de Montpellier, socialiste, est très clair là-dessus.
Bien sûr.
Bernard Cazeneuve, socialiste, est très clair là-dessus. Il y a une gauche qu'on entend moins parce que les insoumis ont pris un peu toute la place et parlent plus fort que les autres. Il y a une gauche qui est républicaine, qui est très attachée à la laïcité. hein. qui défend.
Voilà. Non, tout à fait d'accord.
Moi, je pense
Marianne.
Que
c'est au maire de la Fosse de Montpellier.
Si on doit résumer, puisque autour de cette table, on est, enfin, en tout cas, moi, je suis pour l'interdiction à partir du moment où on considère que c'est religieux. J'ai pas de débat par rapport à ça. Moi, il suffit qu'on me dise et qu'on me démontre que c'est religieux. Oui, bien sûr, on interdit. Et j'ai aucun débat par rapport à ça. Mais ce qui résume, en fait, ce qu'on a entendu tous nos auditeurs, c'est qu'en réalité, si on veut protéger, parce que c'est les professeurs et les chefs d'établissement qu'on doit protéger en premier chef, il faut que le gouvernement soit très clair. Il faut que ça vienne d'en haut. Parce que sinon, effectivement, ils vivent dans la crainte.
Mais n'est pas suffisamment clair.
Aujourd'hui. Merci à Christophe, Myriam et Fatima d'avoir témoigné. Merci à vous trois. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles discussions. Donc, on a posé la question hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des simples effets de mode ou véritable atteinte à la laïcité.
98.
Atteinte à la laïcité, 80%. Tu vois, t'étais pas loin,
Français,
mon cher Stéphane.
Oui.
Dans un instant, ça se passe chez vous. On avait envie dans les grandes villes, dans le ça se passe chez vous, d'aller du côté des Hauts-de-France, d'aller à Louvroil, c'est juste à côté de Maubeuge, voir ce que c'est que cette histoire autour du vendeur d'Auchan mis à pied parce qu'il avait, il chantait trop fort le matin quand il faisait les mises en rayon. Voilà, ça se passe chez vous, ça se passe dans les Hauts-de-France, ça se passe à Louvroil là tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Stéphane Manigold qui est chef d'entreprise restaurateur. Nous sommes avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire géographie, et Marianne Soubré, avocate. Ah, le à vous de choisir, j'ai oublié le à vous de choisir. De quoi voulez-vous que l'on parle à 11h tout à l'heure, de ce que dit cet officier militaire du renseignement américain qu'il a vu des débris d'objets volants non humains collectés par les autorités américaines. Du coup, il pose la question des extraterrestres. Est-ce que vous y croyez ? Préférez-vous que l'on parle de l'argent liquide en voie de disparition, faisant de moins en moins
l'espèce, la signa de Napoléon,
la moula.
On fait de moins en moins de retraits aux distributeurs, aux DAB. Donc voilà, vous choisissez un des deux sujets sur les réseaux sociaux, sur Internet, RMC.
Il y a deux professions qui vont avoir quand même beaucoup de mal.
Et puis on en parle.
Ces deux professions sont représentées.
C'est une
aujourd'hui,
petite attaque sur le
plateau des grandes gueules. Franchement, je ne sais pas.
C'est une petite attaque. Comme il s'agit pas de
déjà. Alors déjà, Marianne, elle n'est pas pénaliste, donc elle n'est pas concernée.
Exactement.
Dans les clichés. Et puis moi, j'ai des
restaurateurs.
Oui, mais je fais beaucoup de dépôts en espèces. Et je tire beaucoup d'argent à la tirette pour laisser des pourboires. Bah
attends, on y va. C'est peut-être pas ce sujet qui sera choisi. Peut-être qu'on parlera des extraterrestres.
Le pognon.
Voilà,
le
pognon.
Vous choisissez rendez-vous tout à l'heure.
Il est l'heure, monseigneur.
À 10h03. En attendant, ça se passe chez vous.
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe chez vous.
Louis Gerbier, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Alors tu nous emmènes
dans le Nord.
Chez le Nord.
Galabru. À Louvroil, proche de Maubeuge, dans le 59. Alors ça, c'est pour vous, ce qui va partir.
Mais moi, je connais pas. Vous connaissez pas. Un clair de lune à Maubeuge.
Je connais la tactique du gendarme.
Le doux soleil de Tourcoing. Je vous en prie.
C'est l'interprétation de Bourville. Je crois qu'il était pas.
Il était visionnaire avec le réchauffement climatique. Il va y avoir du soleil.
La personne qui écrit cette chanson n'a fait qu'un titre. Je ne sais pas si ça lui a rapporté de l'argent. L'air de lune à Maubeuge. Donc, alors, Louis, que se passe-t-il ?
Eh bien, justement, puisqu'on est en chanson, un salarié d'Auchan à Louvroil a été mis à pied pour avoir chanté trop fort dans les rayons du magasin dans lequel il travaille. Il y travaille depuis 20 ans et il a pour habitude, c'est son habitude, il chantonne le matin lors de la mise en rayon. Problème, la direction affirme avoir reçu plusieurs plaintes de ses collègues. Il chanterait trop fort à tel point que ses collègues doivent mettre des bouchons d'oreilles carrément dans les rayons. Depuis 24 mois, le salarié a été averti à plusieurs reprises mais ne s'est jamais arrêté. Jusqu'au 22 mai dernier, où il a reçu sa mise à pied par courrier.
Parce qu'il chante trop.
Exactement. Cette sanction est donc vivement critiquée par les syndicats, comme va vous l'expliquer en direct Éric Dronsard, le délégué de la CFDT qu'on va avoir au téléphone, et qui a appelé à manifester en chantant pour soutenir son collègue qui est en arrêt maladie depuis sa mise à pied, justement.
Bonjour, monsieur Dronsard. Bonjour, Éric Dronsard. Éric Dronsard.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, bien sûr, on vous entend.
Bonjour, monsieur.
Mais qu'est-ce qui lui arrive à votre collègue ? Qu'on comprenne les faits, que faisait-il, votre collègue, en fait ?
Ben, Ben, c'est un collègue qui comme tous les jours pour faire son travail qui vous connaissez la grande distribution, c'est pas des métiers faciles, on commence de bonne heure, on a pas mal de charges de travail. Ben lui il passe son travail en chantant, il fait son travail en chantant, il reprend ce qui passe à la radio. Alors quelquefois il le déforme, quelquefois bon il y met un petit peu d'improvisation, mais alors après oui on peut
mais dire, il chante fort.
Peut-être qu'il chante un peu trop fort, mais
pourquoi il n'a pas arrêté,
mais c'est de la bonne humeur, c'est
oui, mais pourquoi il n'a pas arrêté si ses collègues s'en plaignent en disant écoute tu chantes trop fort le matin etc, on est obligé de mettre des bouchons, parce que c'est ça la vie en communauté, c'est bien sûr la ma liberté s'arrête là ou commence celle des autres.
Les bouchons d'oreilles, vous savez, il n'y en a pas 50 qui les mettent, c'est pas
après, pourquoi lui-même, parce que je comprends vous êtes syndicaliste, vous sautez sur l'histoire, mais lui il aurait pu très bien lui-même effectivement, les gars je chantais un peu moins fort, enfin en bonne intelligence.
Bon, vous savez, moi, ça fait 17 ans que je travaille avec lui. Je suis pas encore devenu sourd, ni encore gaga. Donc, je vous dis, la sensation de bruit en fait. Et de puissance, c'est aléatoire.
Mais
on n'a jamais mis le sonomètre non plus. Hein, donc,
Alors, on a une avocate avec nous.
Non, mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'il avait des écouteurs, et est-ce que, du coup, il chantait faux, en fait? Parce que c'est peut-être ça, l'histoire. C'est peut-être drôle, qu'il écoute de la musique et qu'en plus, il chante horriblement faux, comme quand on a de la musique dans les oreilles.
Oui, alors je veux pas vous mentir, de temps en temps pour s'amuser, il s'amusait à chanter faux exprès aussi. Bon voilà, c'est un peu un truc entre nous quoi. Donc on va dire.
Oui, mais
c'est l'emmerdeur quoi.
Moi je rejoins un peu Olivier. Le problème c'est qu'on est en fait, si tout le monde décide dans son coin de ce qu'il va faire, on peut plus en fait vivre ni en société ni dans le cadre de l'entreprise. Quand votre employeur vous dit que votre attitude pose une difficulté au moins à vos autres collègues, c'est vrai que la vraie question c'est celle qu'a posé Olivier, c'est pourquoi il s'est pas arrêté en fait.
Oui. Non mais enfin. Allez-y,
oui, peut-être, mais bon, moi je vous dis juste une chose, quand on a fait l'action de solidarité, il y avait presque l'intégralité de ses collègues qui étaient là pour le soutenir. Si jamais il avait été si encombrant que ça, je pense pas qu'on l'aurait soutenu. Donc vous savez, c'est que quelques personnes encore. Bon, après derrière, je vous dis personnellement, et ça va peut-être plus loin que l'histoire de
du chant.
Il y a peut-être une histoire un peu plus personnelle. Bon, ça, j'en
Mais le meilleur moyen, est-ce que le meilleur moyen de le soutenir, ça serait pas de lui dire, écoute, fais attention à tes collègues, parce que moi, j'imaginais le matin, on arrive, je suis à côté d'Alain, il y a Louis, il y a Anaïs, etc. Si Alain se met à chanter, parfois il essaye, des chansons de Metallica, de hard rock, etc., qui font du bruit. Bah, à un moment donné, on lui dit, écoute, Alain, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à se concentrer, et lui-même dirait, bah oui, vous avez raison. Enfin, c'est ça, vivre ensemble. Et on n'irait pas, il n'irait pas chercher délégué CGT, surtout pas lui. et pour dire, ah mais non, c'est pas bien, je suis discriminé. Enfin, vous voyez.
En tout cas, le délégué MEDEF rappliquerait très vite.
Après, quand même, ça reste quand même vraiment disproportionné. Content qu'à un moment, on peut gêner quelqu'un. Après, on est des humains, on se parle, et puis on peut régler le problème.
Sans
pour autant passer par de la discipline, et puis par, on va dire, de la délation, parce que c'est un peu ça quand même. Voilà, on est des êtres humains, on peut s'expliquer, on peut avancer ensemble, comme vous le dites. Mais bon, je vous dis quand même, parce que moi je suis là, je travaille le matin aussi avec eux. On n'en est pas non plus, c'est pas voilà.
Ce qui est drôle, c'est que vous avez manifesté.
Hein, faut pas quand même exagérer. Hein.
Ce qui est drôle, c'est que vous avez manifesté en chantant. On peut peut-être entendre d'ailleurs.
Ouais. On va écouter. Voilà.
Moi je vous vire tous.
Bon, on n'a pas trop mal chanté quand même.
C'était pas mal.
Non, mais sympa.
Merci de vos explications, monsieur Dromard.
Juste un mot de Stéphane Manigol.
Stéphane, toi, chef d'entreprise.
Si j'avais été justement chef d'entreprise de ce centre commercial,
tous les matins, t'as des collègues qui arrivent, dont un qui n'arrête tous les matins, ils chantent.
Mais tu rends le sujet beaucoup plus agréable. Moi, je te fais des vidéos. Venez, on recrute. T'as quand même des problèmes de recrutement dans ce pays. Et tu vas virer un mec parce qu'il chante. Enfin, franchement, c'est quand même.
Ah non, mais
franchement, je trouve ça absurde. Et t'as d'autres grandes entreprises, je vais pas les citer, BNP, etc.,
qui font des pubs où tu vois des mecs en costume et tu vois un mec habillé en Robin en train de dire, tu vois, en gros le message, mais venez tel que vous, vous avez envie d'être, oui. Exprimez-vous.
Et quitte à emmerder les autres, il n'y a pas de problème. Non, mais il y en a marre de cet individualisme, de cet égoïsme. Il y a un type qui, tous les matins, chantonne, faux, casse les pieds de tout le monde, il va pleurnicher, il va pleurnicher auprès du délégué de la CFDT qui trouve le meilleur pour le défendre, qui se mâche. Chanter également dans une vidéo. Non, mais franchement, il faut aller consulter, je pense.
Mais non, mais oubliez le sens du collectif et du respect.
Mais vous en faites tête tout le monde.
Non, mais Stéphane a dit
un truc. On fout la paix aux gens le matin.
Venez comme vous êtes.
Oui, c'est McDonald's.
Mais moi, je pense qu'on est en train de vivre les dérives du venez comme vous êtes.
Évidemment,
ça rejoint un sujet plus sérieux avec les abayas. Ça rejoint tout ça. C'est que tout le monde. Non, on vit en communauté, on vit ensemble. Donc, quand on vit ensemble, eh bien, on vit en concession, avec des concessions, c'est évidemment normal, c'est comme dans un couple, c'est pareil. Ouais. Effectivement, on peut tous vivre chacun chez soi, seul, machin, on gênera personne. Mais à un moment donné, si on vit ensemble, il faut se respecter. Pardon, si un client de ton restaurant commençait à chanter ou parler trop fort, je suis sûr que si je viens te voir en disant, écoute, là, c'est pas possible, on s'entend pas, il parle trop fort, mais tu iras gentiment lui faire une remarque.
La pédagogie.
Ah, voilà.
Mais je suis pas sûr, honnêtement, Marianne le confirmera certainement, je suis pas sûr que devant les conseils des prud'hommes, le motif du licenciement tient.
Ah, peut-être.
Franchement, c'est pas du tout ma spécialité, mais je pense que si effectivement il est étayé, qu'on lui a donné des avertissements, qu'il a maintenu son comportement, ça peut tenir. Mais de toute façon, là, il s'agit pas de licenciement, il s'agit de mise à pied. Donc, quand même, en fait, moi je pense, parce que le délégué syndical nous disait, il y a qu'une personne qui s'est plainte, une ou deux, mais il suffit d'une en fait. Oui. Ben, moi je vois, ma mère était prof, et en fait, quand dans la salle on disait j'ai trop chaud, elle disait ok, on ouvre la fenêtre, mais le premier qui dit qu'il a froid, on ferme la fenêtre.
Évidemment.
Et c'est ça, vivre en collectivité.
Comme dans le bus.
Là, en l'occurrence, bah, à partir du moment où il y en a un qui se plaint, c'est ingérable. Et effectivement,
Donc, quand quelqu'un râle quotidiennement, ce qui est à peu près le lot de tous les Français quand ils vont travailler, ou en tout cas beaucoup, quand quelqu'un râle toute la journée, tu peux licencier parce qu'en fait, il râle, il chante.
Surtout qu'il a dit qu'il le faisait exprès de chanter faux. Il y avait l'intentionnalité de casser les pieds aux gens.
Il devait le faire exprès quand on lui disait tais-toi, quoi.
Et en fait, ce mec, il est comique de répétition, ça.
Il est peut-être un peu lourd, c'est ça.
Ou alors, il faut qu'il chante des chansons.
Ou alors, c'est un intermittent du spectacle.
Des chansons de François Hardy, très calme, plutôt
mais voilà.
Que du Florent Pagny, ou je sais pas, ou
du Delerme.
Ou de Franck Michael.
Franck Michael, tiens.
Voilà pour cette petite histoire du côté du côté de Louvroal, c'est ça?
Et ouais,
c'est l'histoire du côté de Maubeuge.
Maubeuge. Vous êtes déjà allé à Maubeuge?
Non.
Oui. Vous avez bien de la chance.
Fourmis également.
Vous en êtes revenu surtout.
Fourmis, moi je suis passé à Fourmis. Eh ben,
c'est gratuit, je connais pas.
Passer
à Fourmis ou mourir.
Bon, la suite des réjouissances. Et je remercie monsieur Dronsard.
Merci monsieur Dronsard.
Dans un instant, donc, de quoi voulez-vous que l'on parle? Peut-être y a-t-il des extraterrestres.
Oui, il y a des extraterrestres.
Ils sont déjà passés par les États-Unis. C'est ce que dit un chef du renseignement. Vous voulez
tendre la table
de l'argent liquide.
Il est un peu extraterrestre.
De l'argent liquide en voie de disparition. Je vous dis ça dans deux minutes et vous pourrez réagir au 32-16. C'est l'heure du à vous de choisir.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.